Mastercard World Elite, la carte prestige de Banque Atlantique qui vous donne accès à plus de 1000 salons d'aéroports LoungeKey et à des offres exclusives, vous propose Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité est à Abidjan. Juan Gomez.
Bonjour, bienvenue dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, où se tient depuis mardi le FEMUA, le Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo, l'un des plus grands festivals de musique d'Afrique, avec cette année encore une très belle affiche des artistes de renommée internationale. D'ailleurs, demain, le rappeur ivoirien Suspect 95 sera le rédacteur en chef de l'émission. Il lancera le débat sur le chômage des jeunes et Suspect 95 vous pose cette question. Faut-il tout attendre de l'État pour créer des emplois. Abidjan, également capitale mondiale de la lutte contre la désertification. Depuis le début de la semaine, on vous en parle sur RFI. Des milliers de participants et d'experts venus du monde entier sont ici pour la COP15, la conférence des Nations Unies sur la désertification, pour tenter de limiter ce phénomène qui concerne tous les continents. Mais c'est incontestablement l'Afrique subsaharienne qui est la région la plus durement touchée par la désertification, par la dégradation des sols. L'occasion donc, ce matin, de vous donner la parole sur les conséquences dans votre vie quotidienne. Je vous donne un chiffre, juste un seul, pour mesurer l'ampleur du fléau. La désertification touche 45% des terres sur le continent africain. Alors constatez-vous une prise de conscience dans votre pays? Dites-nous si des mesures sont prises pour tenter d'enrayer et surtout d'inverser le processus de désertification. Pour dialoguer avec vous, trois invités, je vous les présente. Amat Patessen, bonjour.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes le directeur régional du FIDA. Le FIDA, c'est le Fonds international de développement agricole pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le FIDA, je précise, c'est une institution financière internationale. C'est un organisme des Nations Unies et vous intervenez essentiellement auprès des populations rurales et des petits exploitants agricoles. Sena Alouka, bonjour, soyez le bienvenu.
Merci et bonjour Juan Gomez, bonjour à l'Afrique.
Vous êtes le directeur exécutif des Jeunes Volontaires pour l'Environnement, ONG qui rassemble 5000 volontaires dans 28 pays africains et vous êtes mobilisé sur tous les sujets en relation avec le développement durable. Bonjour John Munengilunga.
Bonjour Monsieur Gomez.
Vous venez de la République démocratique du Congo, vous êtes le chef de la division désertification au sein du ministère de l'environnement. Et il me semblait pertinent de vous avoir à nos côtés ce matin, car oui, un pays comme la République démocratique du Congo, qui est au cœur du bassin du Congo, la deuxième forêt plus importante au monde, eh bien oui, la RDC est concernée par la désertification. Les auditeurs patientent déjà au standard, mais on va quand même malheureusement commencer cette émission avec une mauvaise nouvelle, et j'espère qu'on la terminera sur une note optimiste. La mauvaise nouvelle, Amat Patessen, c'est que les terres se sont considérablement dégradées ces deux, trois dernières décennies. Partout dans le monde.
Absolument, Juan. Donc, mauvaise nouvelle partout en Afrique parce que, d'abord, un, le climat. Les 100 dernières années, on a une augmentation de la température de 1 degré, particulièrement dans le Sahel. Deux, la désertification des terres, la perte de la fertilité des sols. Et malheureusement, ça impacte sur la productivité et les productions agricoles. Et qui dit productivité, production, sécurité alimentaire.
Oui, on voit bien que les enjeux sont colossaux. On va en parler évidemment tout au long de cette émission. Sena Alouka, avant de passer au standard, je vous lis ce commentaire que nous avons reçu sur la page Facebook de l'émission. Abdoulaye, il est au Mali. Il dit « Dans mon pays, les conséquences de la désertification sont, entre autres, la pauvreté, l'exode rural, l'insécurité alimentaire et les conflits sociaux ». Il résume bien la situation, cet auditeur.
Ah oui, absolument. C'est même, le tableau est beaucoup même plus sombre aujourd'hui. Je travaille avec les jeunes, on assiste à cette migration des jeunes des villages vers les sites urbains parce que la terre ne donne plus. Il y a peu d'espoir à rester dans le village. L'agriculture n'est plus sexy et il y a des conflits entre éleveurs et paysans, mais aussi avec cette raréfaction de la pluie, eh bien, on assiste à un déboulement complet du système agricole. On peut dire que le modèle agricole actuel n'a pas fonctionné.
Et John Munengilunga, en RDC, quelle est l'ampleur du fléau, du phénomène?
Bon, vous l'avez dit au début, quand on parle RDC, on voit la forêt.
Oui.
On oublie que cette forêt est très impactée et chaque année, on a une perte de 0,4%. Bien sûr, ça a des conséquences sur les sols.
Ouais, on aura l'occasion d'en parler, simplement juste pour qu'on ait une image. Le désert gagne du terrain en République démocratique du Congo.
C'est-à-dire que le sud-est de la République démocratique est impacté par l'avancée du désert du Kalahari. Donc les phases de sécheresse qui se succèdent en Afrique australe frappe aussi dans cette région, donc on est concerné.
Alors, exceptionnellement, cette émission est enregistrée, mais depuis le début de la semaine, vous avez pu vous inscrire sur nos réseaux sociaux pour nous livrer justement vos témoignages et dialoguer avec nos invités. Certains d'entre vous sont déjà en ligne. C'est le cas d'Ibrahim. Il est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Bonjour Ibrahim.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, Ibrahim. Vous disiez au Standard que dans votre pays, le Burkina Faso, il y avait de moins en moins de terres cultivables et ça vous inquiétait.
Énormément, et que je parlais particulièrement donc de ma province, notamment la Sicile, où il y a des déplacés massifs du fait de la crise et l'insécurité au Burkina. Donc ça a entraîné des déplacés massifs dans cette zone et du coup à la recherche des terres cultivables, et du coup il y a la rareté des terres entraînant donc cette insuffisance des terres qu'on n'en trouve plus, et il y a l'activité intensive, en tout cas humaine, très dégradante sur les sols, notamment l'agriculture surbrûlée, le charbonnier, créant ainsi en tout cas visiblement l'avancée du désert. Et on constate que le gouvernement ne fait rien, le phénomène est tellement visible. Aujourd'hui, le Burkina Faso, je ne sais pas s'il y a encore, mais il y a une petite forêt. Rien n'est fait, il n'y a pas ce que vous appelez, il n'y a pas de reboisement. Il y a effectivement le phénomène climatique où ça aussi s'est constaté, il n'y a plus de pluie, comme on le souhaite. Du coup, l'agriculture n'est plus du tout, en tout cas, ce qui était, en tout cas, vous savez, généralement en Afrique ou dans le monde ailleurs, on dit la terre ne ment pas. La terre aujourd'hui ne peut plus nourrir son homme parce qu'elle est... Le désert est déjà suffisamment installé au Burkina Faso.
Ouais. On voit bien que les conditions de vie des populations se dégradent. Je regardais avant de commencer l'émission, 80% de la population au Burkina Faso vit de l'agriculture et de l'élevage. Amat Patessène, la dégradation des terres met en péril les moyens d'existence des populations qui, par ricochet, ensuite sont obligés de migrer, comme nous le raconte Ibrahim à l'instant.
Absolument. En fait, il y a deux phénomènes. Il y a le changement climatique d'abord, qui est un des conséquences directes sur la dégradation des terres, mais il y a aussi les facteurs anthropiques, c'est l'effet de l'homme. L'agriculture a toujours été une agriculture monoculture, de mauvaises pratiques qui accélèrent le phénomène. Combiné, donc forcément, on se retrouve avec des terres incultes et donc pas fertiles, et forcément baisse de la production. À titre d'exemple, si vous prenez par exemple le maïs ou bien le mil pour des productions qui sont donc avant avec des pratiques normales, c'est à peu près 800 kilos par hectare. On est en dessous, alors qu'avec de bonnes pratiques, on devait être à 4 tonnes par hectare pour nourrir donc des ménages.
Les bonnes pratiques, ça veut dire quoi pour ceux qui nous écoutent?
Donc concrètement, des bonnes pratiques, c'est vraiment des systèmes de rotation des cultures. Lorsqu'on a la monoculture, on cultive par exemple l'arachide sur un seul sol plusieurs fois. Ça fatigue le sol et puis forcément la production diminue. Donc la rotation avec l'arachide, avec des céréales pour couper le cycle des maladies, ça aide à garder la bonne santé de la terre.
On va prendre dans un instant justement un agriculteur qui nous a contacté du sud-est du Togo, Sena Aluka. Clairement, le lien entre dégradation des sols et migration, est flagrant aujourd'hui.
C'est clair. Aujourd'hui, avec cette terre qui ne donne plus suffisamment, mais il faut avouer que l'agriculture telle que pratiquée par nos parents par le passé était une agriculture respectueuse des écosystèmes et de la dynamique, n'est-ce pas, naturelle. Mais aujourd'hui, avec le modèle agricole qui a été importé, je dirais imposé parfois, notamment avec la culture du café, de cacao ou du coton, qui n'était pas dans le système africain, eh bien, nous avons contribué à dégrader nos terres. Parce qu'il faut différencier désertification de dégradation des terres. Un phénomène est un phénomène géomorphologique qui va se faire naturellement, qu'on l'aide ou pas, et l'autre est un phénomène que l'homme a n'est-ce pas, engendré.
Oui, vous parliez du cacao, il y a beaucoup d'auditeurs certainement en Côte d'Ivoire qui se disent « Attendez, le cacao, c'est ce qui nous a permis d'être une locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être le premier producteur et exportateur de cacao, et donc de faire en sorte que le pays soit un pays riche. » On va y revenir, parce qu'on a des auditeurs ivoiriens qui souhaitent justement mettre en avant ce paradoxe. Je vous le disais, un agriculteur nous a contacté, il est au Togo. Bonjour Paul.
Bonjour Monsieur Gomez.
Et en tant qu'agriculteur, vous attendez que la COP 15 propose des solutions concrètes?
Oui, en effet, Monsieur Gomez, parce que nous qui sommes sur le terrain, nous constatons que la vulgarisation massive des engrais chimiques, le NPK pour faire plus court, détruit nos terres, en ce sens que la vie microbienne qui est dans le sol est détruite par les compositions, les acides sulfuriques et les acides chloridiques qui sont dans le NPK. On ne le dit pas souvent, mais dans un sac de NPK, il n'y a pas que de l'azote, il n'y a pas que du phosphore, il n'y a pas que du potassium. Et donc, moi, ça fait 10 ans que je suis retourné carrément aux engrais organiques, c'est-à-dire les engrais qu'on appelle biologiques, que je fabrique moi-même. Et je dis aux auditeurs que s'ils veulent conserver leur terre fertile très longtemps, je pense qu'ils doivent tourner le dos aux engrais chimiques tels que proposés et voir sur Internet, voir sur YouTube, il y a beaucoup de solutions qui sont proposées.
Oui, mais Paul, je vous pose la question naïvement, hein, je ne suis pas agriculteur. Est-ce que ces engrais biologiques que vous produisez vous-même, hein, si j'ai bien compris, sont tout aussi rentables que les engrais chimiques? Est-ce que l'agriculteur que vous êtes produit autant et aussi bien?
Je produis mieux même.
Ah, bonne nouvelle.
Je produis mieux et les produits se conservent plus longtemps. Tout le monde sait que les engrais chimiques, que les fruits et légumes ne se conservent pas longtemps. On le voit dépérir rapidement parce qu'il y a survivance de ces produits chimiques-là dans les fruits et légumes que nous récoltons. Et donc, ces produits chimiques-là rentrent dans nos organismes par voie d'injection.
Oui, donc il y a des conséquences évidemment sanitaires. Senna, Luca, vous écoutiez attentivement Paul. Tous les agriculteurs peuvent eux-mêmes produire leur propre engrais biologique. C'est accessible à tout le monde?
Oui, les solutions simples existent. Et aujourd'hui, la FAO, en tant que grande institution des Nations Unies pour favoriser l'agriculture dans le monde, a compris la nécessité d'aller vers une politique basée sur l'agroécologie. L'agroécologie qui est cette façon de combiner la science moderne aux pratiques agricoles anciennes, traditionnelles que nous maîtrisons si bien. Et aujourd'hui, il y a plusieurs techniques de bonne gestion des terres. Le directeur parlait tantôt de la rotation des cultures. Il y a les engrais bio, il y a les produits, les herbicides, même bio. Le bokashi, c'est pas compliqué. Même de l'eau chaude permet juste de tuer les herbes dans son champ, tout en gardant la vitalité du sol.
Donc, Ahmad Patessen, si j'écoute Senna Alouka, pas besoin de milliards de dollars, de milliards d'euros pour une agriculture bio?
Alors, pas forcément. Donc, en fait, quand vous regardez, par exemple, le gap pour l'adaptation, aujourd'hui, on est dans une zone où c'est des cultures pluviales. Il y a les pratiques, mais il y a le besoin en financement. Et pour optimiser la production, il y a une étude même qui a montré qu'il faut à peu près entre 150 milliards de dollars à 300 milliards pour s'adapter d'ici 2030. Mmh. Donc les investissements, on en a besoin. Et ces investissements, on doit faire maintenant l'optimisation, l'efficacité dans la production pour atteindre donc ce qu'on est en train de dire. Donc, mais avec une agriculture respectueuse de l'environnement et résiliente au changement climatique.
On va repasser
sobre en carbone.
Oui, effectivement. On va repasser au standard et je pense que John Munengilunga de la République démocratique du Congo aura certainement son mot à dire. Bonjour Fatou.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Conakry en Guinée et vous disiez hors antenne le facteur numéro un de la désertification dans votre pays, c'était la déforestation.
Oui. C'est la déforestation parce que la plupart des ménages utilisent le bois comme source d'énergie pour faire les activités ménagères de tous les jours. Donc aujourd'hui, la Guinée qui est quand même un pays avec 4 climats distincts, la basse, la côte, il y a le relief, il y a la savane, il y a la forêt. Avec ce phénomène, aujourd'hui on est arrivé à une situation climatique très préoccupante. À Conakry, actuellement, on vit comme au désert, quoi. La journée, il fait excessivement chaud et la nuit, il fait très frais et ça interpelle chacun.
Et pour vous, il y a vous, en tant que citoyenne, peut-être pas, mais les citoyens guinéens de façon générale, la population a sa part de responsabilité en continuant à aller couper du bois pour cuisiner?
Bon, il y a une part de responsabilité, mais en fait, elles n'ont pas le choix, ces populations, que d'utiliser ce qui est disponible à leur... et de porter, surtout de porter. Mais il y a eu beaucoup de séances de sensibilisation, malheureusement, qui ne sont pas bien ciblées et qui n'arrivent pas à faire d'effet. Et de l'autre côté, on sensibilise ou on interdit la coupe du bois, mais il n'y a pas un mécanisme constant et pérenne qui permette d'arrêter la coupe du bois.
Oui, et ça veut dire ce mécanisme pérenne, c'est par exemple de permettre à la population d'avoir accès au gaz. Et pour le coup, le gaz, effectivement, on a vu la flambée des cours ces deux derniers mois avec notamment la crise en Ukraine. Je vous lis le commentaire de Vigas, il nous envoyait un message, il est au Bénin. Il nous dit avec la flambée des prix, le gaz est de plus en plus cher. Nous sommes donc obligés d'utiliser le charbon de bois, le bois de chauffe, difficile dans ce contexte de lutter contre la désertification. Ce phénomène, vous le connaissez également en République démocratique du Congo, John Munenginlunga.
La déforestation affecte sérieusement le potentiel forestier de la RDC. Je voudrais juste prendre un exemple assez frappant. La province côtière de la RDC, qui est toute petite, mais bon, c'est le seul accès que nous avons à la mer. Ça s'appelle la province du Congo central. Et il y avait une forêt assez dense, qu'on appelle la forêt du Mayombe. Ça a pris à peu près 40 ans pour que cette forêt passe d'une forêt dense à une forêt plus que claire.
C'est-à-dire une savane, une sorte de savane ?
Une sorte de savane. Donc, le fait qu'elle était située le long de la côte, ça fait qu'elle était plus facilement exploitable que les autres. Et cette forêt avait aussi comme
fonction,
comme situation d'être située près de Kinshasa. Mmh. Ce qui fait qu'en revenant à ce que la dame qui est passée avant disait, les problèmes de ravitaillement en makala, comme on appelle le charbon de bois chez nous, pour ravitailler une agglomération comme Kinshasa, donc vous comprenez que le couvert forestier a presque disparu dans les parties de cette province. Parce que tout a été coupé, même les forêts-galeries sont attaquées. Donc, c'est vraiment une catastrophe en matière de déforestation.
Ouais, j'ai vu ce chiffre avant de commencer l'émission. En Afrique de l'Ouest, on estime que 90% de la population utilise le bois pour assurer les besoins de cuisson et de chauffage. Cette population-là n'a pas accès à d'autres sources d'énergie, Amad Patessen ?
Alors, pour le moment, pas beaucoup, parce que... Mais le bois de chauffe, on peut le faire et puis le substituer et reconstruire. La reforestation, au moment où on le fait, on peut faire également la gestion de ces aires-là pour s'assurer que lorsqu'on coupe, on a également en fait, d'autres repousses. Donc c'est une question d'aménagement, c'est une question d'organisation et également de distribution pour ce bois de chauffe. Donc le gaz, maintenant, c'est également source, mais ce n'est pas accessible à tout le monde.
Évidemment.
Et avec, bien sûr, vous avez la crise ukrainienne où... avec le gaz, on a quand même des soucis dans l'approvisionnement. Donc ça fait qu'on peut toujours utiliser le bois, mais il faudra reforester.
Oui. Je vous lis deux réactions Facebook. Abdourahman, au Niger, nous dit « On nous a toujours appris que pour lutter contre la déforestation, il fallait planter les arbres. Nous en plantons, mais malheureusement, ils finissent par mourir chaque année par manque d'entretien. » Autre réaction, Innocent à Douala au Cameroun, celui qui n'a pas planté un arbre a vécu inutilement au cours de sa vie. Ça vous fait réfléchir,
Sénat Aloka ? Et c'est pour cela que durant cette COP, il y a eu le forum des jeunes le 8 et 9 mai, où l'accent a été mis sur l'éducation à l'environnement. Il faut qu'on améliore le système éducatif, qu'on apprenne à nos enfants à planter, à reboiser, à s'occuper de la terre très tôt. Ce n'est pas quand on a fini qu'on voit qu'il y a un potentiel dans l'agriculture, on encourage tous les jeunes à devenir entrepreneurs. Mais non, il faut aller vers un système éducatif amélioré.
Oui, mais encore, on plante des arbres, mais encore faut-il les entretenir, s'occuper d'eux. C'est ce que nous dit Abdourahman au Niger.
Dans tout le pays, il y a la journée mondiale de l'arbre. Là, récemment, avec l'initiative Afri-100 en Afrique, on veut reboiser 204 millions d'hectares. Des pays comme le Togo ont décidé de reboiser 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Donc, des plans ambitieux comme ça, il y en a. Maintenant, les moyens, il faut mettre les moyens de côté.
Il faut de l'argent.
Il faut de l'argent et nous avons de l'argent suffisamment dans nos pays pour nous occuper de nos plans. Il ne faut pas attendre le FIDA, la Banque mondiale, l'Union européenne. Nous avons des ressources locales.
Je vous propose de marquer une pause. On va retrouver la rédaction à Paris pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et nous revenons dans 10 minutes avec nos invités et vos témoignages.